secretos de tu alma.
Les Racines du Ciel, une émission de Leili Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Pierre Monteil. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Basarab Nicolescu pour parler de l'influence de l'école de Gurdjieff sur la vie intellectuelle du XXe siècle, en évoquant tout particulièrement l'œuvre et la vie de René Daumal. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais peut-être faire une précision et indiquer à nos auditeurs le caractère pour le moins controversé du personnage de Gurdjieff, qui a été l'objet d'accusations de dérives sectaires et autres. Et autre turpitude spirituelle. Et je voudrais préciser que cette émission n'est pas du tout ni une émission de propagande, ni une émission de démolition. Il s'agit simplement de comprendre pourquoi cette figure controversée a eu une telle influence sur le monde intellectuel et artistique de son temps. Pourquoi il a exercé, ainsi que certains de ses héritiers, une telle fascination et ce qui, dans sa pensée, au-delà d'un certain fatras ésotérique, il faut le dire, peut encore nous aider à sortir de nos habitudes de pensée et de notre routine intellectuelle et ou spirituelle. Et nous sommes, pour parler de tout cela, donc avec Basarab Nicolescu. Vous êtes physicien, théoricien, chercheur honoraire au Centre national de la recherche scientifique et professeur dans différentes universités dans le monde. Vous êtes aussi président fondateur du Centre international de recherche et études transdisciplinaires, passionné par cette discipline, dont vous nous direz peut-être un mot d'ailleurs tout à l'heure. Vous êtes aussi directeur des collections Transdisciplinarité aux éditions du Rocher et rédacteur en chef de la revue Transdisciplinarity Journal of Engineering and Science, qui est publiée au Texas, aux États-Unis. Vous êtes auteur, entre autres, de From Modernity to Cosmo-Modernity, Science, Culture and Spirituality, qui a été publié aux éditions universitaires de New York, de l'Université de New York, mais aussi Nous, la particule et le monde, qui a été publié à Bruxelles, aux éditions EMES. Ou encore Qu'est-ce que la réalité, publié aux éditions Liber à Montréal en 2009. Et beaucoup d'autres ouvrages, mais je ne vais pas tous les citer parce que ce serait un peu trop long. Et voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous avez fait paraître en 2015 un ouvrage collectif qui est centré sur René Daumal, qui nous permet, à travers lui, de comprendre toute une époque en réalité, celle de la première moitié du XXe siècle et de la quête de spiritualité qui fut celle de nombre d'artistes, d'intellectuels ou de scientifiques dans un monde qui avait perdu tout repère religieux, spirituel et moral après la Première Guerre mondiale. Ce livre nous permet aussi de mieux appréhender les aspects les plus intéressants de l'enseignement de Gurdjieff, en laissant justement de côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on pourrait appeler le fatras ésotérique. Bien que ce fatras ne soit sans doute précisément pas étranger au succès, voire à l'engouement que cet enseignement a rencontré auprès d'un nombre non négligeable de très grands esprits. Alors, Basarab Nicolescu, pourquoi vous avez eu cette idée, au fond, de faire ce livre très étonnant et tout à fait passionnant, qui s'intitule donc René Daumal et l'enseignement de Gurdjieff, et qui est paru aux éditions Le Bois d'Orion?
Oui, tout d'abord peut-être une petite précision concernant les fatras ésotériques, des mots que je conteste évidemment. Oui. C'est les gens qui parlent par ouï-dire de Gurdjieff qui peuvent évoquer cette expression. Aussi toutes ces images négatives qu'il faut pas occulter viennent, à vrai dire, d'un seul livre qui s'appelle Monsieur Gurdjieff, The Powers, Three Powers, qui a été un disciple de Gurdjieff, disciple déçu parce que Gurdjieff lui a pas accordé assez d'attention. Mais Louis Powers, vers la fin de sa vie, a reconnu que c'était une erreur de sa part, de jeunesse, d'avoir écrit ce livre. Ça, c'est pour finir avec ces histoires. Il faut dire aussi qu'il y avait dans les personnages de Gurdjieff quelque chose qui provoquait ces genres d'impression, parce que il éloignait tous les curieux. C'est-à-dire, c'est un homme qui cherchait pas la publicité, cherchait pas de recruter des disciples, il n'avait pas besoin, parce que les disciples venaient à lui. Donc, mais, par contre, il était dur, vraiment dur, avec les gens qui s'approchaient de lui, juste par curiosité. Maintenant, pourquoi Daumal? Daumal, c'est une très ancienne passion pour moi. Par sa vie, par sa poésie tout d'abord, sa courte vie. Il a vécu entre 1908 et 1944, donc une très brève vie. Il est mort de tuberculose. Et c'est moi qui ai organisé en 2008, en collaboration d'ailleurs avec Jean-Philippe de Tonnac, les centenaires de René Daumal pendant une semaine à la Halle Saint-Pierre. Donc c'est une récidive en quelque sorte de ma part. Nous avons publié à ce moment-là, toujours au Bois d'Orion, le livre René Daumal, perpétuel incandescent, où il y avait beaucoup d'études. Mais le problème est le suivant, c'est qu'il y avait un trou noir d'informations concernant justement la relation vraie de ces grands poètes, rédacteur en chef de la revue qui est parue comme une sorte de météore sur le ciel de la littérature française, Les Grands Jeux.
Oui, ce qui a été tout à fait important, alors que c'était effectivement, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a marqué très profondément toute la poésie à venir, d'une certaine façon.
Tout à fait, en même temps qui était ressenti. J'ai fait une conférence hier à l'Association du surréalisme sur la compétition un peu entre André Breton et René Daumal. C'est assez extraordinaire comme histoire. En tout cas, donc il y a eu les centenaires, mais il y avait un trou noir d'information. Quelle était la relation directe? Là aussi, on était plongé dans des choses très approximatives, des allusions de Daumal, certes, dans ses écrits, et aussi son œuvre fondamentale.
Des allusions à l'enseignement de Gurdjieff, vous voulez dire.
Oui, il y avait simplement, ça manquait des données et des documents. Eh bien, ça s'est présenté à nous d'une manière assez étonnante, je dois dire, justement au centenaire, à la fin. Du centenaire de Daumal, Christian Lemelec, qui est le directeur de la maison Bois d'Orion, a découvert quelque chose d'époustouflant à la bibliothèque Doucet, un coffre avec des documents exceptionnels laissés par la veuve de René Daumal, où il y avait exactement cela, c'est-à-dire vraiment les notes, les carnets de Daumal, parce qu'il a été initié à l'enseignement de Gurdjieff entre 1930 et 1934 par un grand peintre et grand décorateur qui s'appelle Alexandre de Salzmann, qui a fondé le premier groupe Gurdjieff en France.
Oui, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est très intéressant.
Et après, il a continué avec l'épouse d'Alexandre de Salzmann, Jeanne de Salzmann. Et on retrouve tout cela. Tout, absolument tout.
Voilà, et vous le reproduisez dans ce livre, c'est ça qui est extrêmement émouvant.
Oui.
Voilà.
Donc pour nous, c'était fabuleux de plonger dans ces documents. Nous, je dis, parce que c'est un livre en collaboration avec une équipe, Anna-Maria Wangemann, Claude Auger, Patrick Descamps et Jean Pian, et qui ont travaillé très dur pour la transcription, l'analyse de tous ces documents. Il y a des documents époustouflants ensuite que nous avons découverts dans d'autres pays. Au Pérou, Venezuela, on s'entendait pas, s'attendait absolument pas de découvrir ça dans des pays très lointains, liés à la famille d'Alexandre de Salzmann. Et voilà. Donc, ces livres, c'est pour finir une fois pour toutes, avec les oui-dire, avec les bruits, avec les, avoir des documents.
Voilà. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que comme vous reproduisez les documents eux-mêmes, vous reproduisez les lettres, vous reproduisez les notes, ça nous donne vraiment quelque chose qui n'est même pas subjectif. Bien sûr, il y a des présentations qui sont faites
bien
par vous ou par d'autres, mais qui restent d'ailleurs d'une très, très belle objectivité à mon sens, parce qu'elles se réfèrent justement à ces documents. Et du coup, c'est à la fois historiquement fort intéressant, mais aussi c'est très émouvant quand on aime René Daumal, ce qui est mon cas. C'est extrêmement émouvant de voir cette pensée, comment cette découverte en fait des idées de Gurdjieff, de la pensée, de l'enseignement de Gurdjieff, à la fois intellectuellement et dans la pratique, et on va y venir dans cette pratique des mouvements, comment ça a travaillé en lui, et donc on voit comment en fait le fait d'entrer dans un enseignement, quel qu'il soit au fond, peut transformer celui qui le reçoit s'il le reçoit de manière adéquate. Donc c'est ça qui est aussi, je pense. Alors vous dites, ça finit cette histoire. C'est vrai que ça l'a fini, mais d'une certaine façon, je trouve aussi que ça commence une histoire.
Exactement, ça ouvre
un
terrain. Il y a aussi quelque chose qui m'a touché personnellement, parce que je m'attendais pas du tout à voir ces documents. C'est un cliché incroyable de ce que c'était l'enseignement des Gurdjieff.
Oui.
Dans les années 30-40. Et c'est un cliché vraiment très fidèle parce qu'il y a des notes de travail, il y a des comptes rendus de travail, les travaux qu'il a fait avec Alexandre, avec Jean de Salzman. Donc, il y a un cliché sur l'enseignement. On a en même temps la figure de Gurdjieff, apparaît d'une manière étonnante, même si ce n'est pas le personnage essentiel de ces livres.
En fait, Gurdjieff était encore vivant quand René Dommal a rencontré son enseignement, mais il n'a pas reçu l'enseignement directement de Gurdjieff.
Oui ou non? La réponse est difficile à donner parce que il a connu Gurdjieff. C'est-à-dire, il l'a connu d'abord par Alexandre Salzman, qui l'a amené un jour au Café de la Paix où il a rencontré Gurdjieff. Mais la vraie rencontre avec Gurdjieff, c'était rue des Colonels Renard, qui était l'appartement de Gurdjieff, où il réunissait les élèves de Jean de Salzman, une sélection des élèves de Jean de Salzman, où il a été confronté directement à Gurdjieff. Donc il a connu Gurdjieff, mais il n'a pas participé souvent à cause de sa maladie.
Oui, il avait
parce
la tuberculose.
En ayant la tuberculose, il a passé pas mal de temps en montagne.
Oui, alors peut-être que depuis le début de cette émission, on présente Gurdjieff comme quelqu'un que tout le monde connaîtrait. Peut-être en quelques mots, resituons quand même Gurdjieff et disons qui il a été, d'où il vient et pourquoi il a été si important. Alors évidemment, je vous dis de me faire ça en 3 minutes. Je sais que c'est un défi, mais vous n'avez pas peur des défis, Bassarab Nicolescu.
Non,
ça nous laissera
adore.
Du temps pour parler aussi
je
de la suite.
J'adore les défis. Donc, Gurdjieff a vécu entre 1877, il est mort en 1949. Sa mère était arménienne, son père était grec. Il a vécu en Géorgie. On voit déjà les conglomérats des cultures. Oui. Il a une solide formation théologique et de médecine. Et il a été obsédé, dès le début de sa vie, d'une question, il disait, une idée fixe, quel est le sens de la vie? Alors, il s'est orienté vers les voyages. Il a fait beaucoup de voyages en Moyen-Orient, Extrême-Orient aussi. Et il a formulé son enseignement qui apparaît déjà constitué juste au temps de la révolution bolchevique, dans les groupes qu'il a organisés à Moscou et Saint-Pétersbourg, dont les racines, on voit très bien que les racines de cet enseignement, qui n'est pas vraiment ésotérique, les mots de gnose peut-être conviendraient mieux que Michel Camus a utilisé à propos de Gurdjieff, c'est-à-dire les racines sont la théologie.
Initiatique, au fond, on pourrait dire.
Initiatique, bien sûr. Théologie, tout d'abord la théologie orthodoxe, chrétienne orthodoxe, et je pourrais donner des arguments. Deux, le bouddhisme zen, et surtout le soufisme. C'est clair qu'il a eu Dans ses visites, il s'est alimenté dans ses sources d'informations, mais dès ça, il n'a pas reproduit quelque chose. Il a fait un enseignement tout à fait étonnant, comparable aux autres grands maîtres du XXe siècle, Sri Aurobindo, Krishnamurti. Mm. Bon, donc c'est pas vraiment un philosophe dans le sens académique du terme, parce que c'est une philosophie expérimentale. Alors, ces idées sont très simples à énoncer comme ça en 3 minutes. L'idée du sommeil, que nous avons le sommeil, bien sûr, biologique, la nuit, mais que dans la vie, quand nous croyons que nous sommes dans l'état éveillé, nous sommes aussi en sommeil. C'est une idée soufie, à vrai dire, très ancienne, mais qu'il incarne d'une manière très concrète par son enseignement. Mmh. Il y a aussi un côté très important dans son enseignement du côté de l'éducation. C'est-à-dire, pour lui, nous sommes des êtres à tiers, si on peut dire. Mmh. Il y a un tiers qui est la pensée. Les mentales, disait-il, c'est les associations du cerveau. Il y a une autre partie qui est liée aux sentiments, et il y a une autre partie liée aux instincts et aux centres moteurs. Il dit, la société contemporaine a privilégié que les mentales. Et donc, pour lui, son enseignement, c'était aussi de rééquilibrer tous ces trois directions, trois centres qui sont en nous. Pourquoi ? Pour faire pénétrer ce qu'il appelait la présence. La présence, c'est une notion que je ne peux pas expliquer en 3 minutes.
Non.
Mais beaucoup des gens qui m'écoutent certainement savent de quoi je parle, parce que c'est une présence qui est au-delà de la présence des êtres. C'est une présence qui pénètre en nous, qui donne sens à notre vie. Disons une sorte d'intelligence cosmique, si on veut dire un mot plus simple. Troisième aspect, je crois, extrêmement important, c'est le langage. Cet homme venu de Géorgie, donc gréco-arménien, a eu l'intelligence, je dirais, de formuler son enseignement dans un langage adapté à l'homme occidental. Dans son langage, dans sa terminologie, on ne trouve pas des termes d'Extrême-Orient, des termes très spécialisés. C'est des mots que tout le monde peut comprendre, mais qui, en même temps, fait appel à ce que l'homme occidental connaît. Ce qui explique cette chose qui m'a étonné et qui m'étonne encore, qu'il a attiré un nombre incroyable d'intellectuels,
oui, d'artistes,
de tous
de
les
poètes,
pays, des artistes, des peintres, des sculpteurs, donnons quelques noms,
oui,
de France,
oui, bien sûr.
De France, parce que en France, par exemple, il y a les grands sculpteurs, Étienne Martin, qui était son disciple. François Staly, grand sculpteur aussi. Parmi les écrivains, bon, à part Domal, il y a Luc Dietrich, qui a été un disciple très proche de Gurdjieff. Aussi René Barjavel.
Oui.
Parmi les musiciens, compositeurs, il y a Pierre Schaeffer. Parmi les acteurs, les actrices, il y a Georgette Leblanc, etc. Donc, il y a toute une je ne parle pas des noms sur le plan des autres pays, aussi c'est des noms célèbres. Lloyd Wright, par exemple. Bon. Lanza del Vasto est passé aussi par le groupe. Donc, il a réussi à attirer des noms. Il était, par exemple, sans que ce soit question de disciples, mais il était ami avec Brancusi. C'est très étonnant. Vous pouvez imaginer ça? Une amitié entre Brancusi et Gurdjieff, c'est assez extraordinaire. Et nous avons des documents pour ça.
Oui, d'ailleurs, vous expliquez aussi que Catherine Mansfield, la grande romancière anglaise, est allée mourir dans le centre.
Elle a voulu mourir à Avon, Catherine Mansfield. Et Brancusi, c'est un exemple. Et Ezra Pound, c'est très étonnant comment ils ont pu communiquer, mais ils ont pu communiquer. Oui. C'est vrai que Gurdjieff avait une aisance, même s'il n'était pas parfait dans les différentes langues, mais il pouvait communiquer en anglais et en français.
Oui, et puis
turc.
Des témoignages des gens qui l'ont connu, il avait aussi un charisme personnel quand même très, très grand, je crois.
Mais il fallait l'approcher d'abord.
D'accord.
Sinon, ce qu'on voyait, c'était être repoussé par sa brutalité. C'est-à-dire, c'est vraiment dans le style des maîtres soufis et des bouddhismes zen. On éloigne les gens pour les éprouver. Une fois que les gens entrent, en quelque sorte, ils montrent leur motivation, à ce moment-là, s'ouvre un visage qui est tout à fait étonnant, de bonté, d'amour,
D'accord. Et donc, ce Gurdjieff, finalement, il a assez c'est pas, il a eu assez un cercle très restreint au fond de disciples très proches qui eux à leur tour vont être plutôt ceux qui vont faire connaître au fond sa pensée au reste du monde, je dirais. En particulier Ouspensky, dont on va pas, peut-être pas parler trop longuement ici, mais, et Alexandre de Salzmann, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a été celui que René Daumal a rencontré, et à travers qui René Daumal, en fait, a rencontré Gurdjieff. Alors, qui était cet Alexandre de Salzmann? J'étais très touchée de lire, justement, le texte sur son destin, puisque avant de rencontrer Gurdjieff, c'était un magicien de la lumière. J'étais très, très émue de voir qu'il avait apporté au théâtre un tournant déterminant en matière de lumière.
Oui. Il était donc tout d'abord un grand peintre. Mm-hmm. C'est-à-dire, il a fait ses études, il était allemand. Alexandre de Salzmann, c'était de la minorité allemande de Géorgie. Et il s'est inscrit à Munich en 1898, à l'Académie des Beaux-Arts. Il a eu comme grand maître Struck, le peintre symboliste Franz von Struck. Et il devient un peintre très connu par du nouvel art, Jugendstil, dans sa variante allemande, par ses couvertures et ses illustrations dans la revue phare de Jugendstil, qui s'appelle Jugend. J'ai toutes les revues en édition originale chez moi, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bon, en étant un peintre connu, un miracle se passe. C'est lui que vous avez évoqué, et c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire, c'est vraiment un miracle. Juste avant la Première Guerre mondiale, un bienfaiteur, animé par les idées humanistes qui agitaient l'époque en Allemagne, a proposé à Jean-Jacques Dalcroze, le musicien, un institut qu'il a créé à Hellerau, où il a eu le génie d'appeler en même temps des noms fabuleux, c'est-à-dire Adolphe Appiah, qui est un grand maître du théâtre, Tessenov, un grand architecte, et Alexandre de Salzmann, en tant que grand peintre, et décorateur pour ses pièces. Mais c'est là qu'il a fait sa découverte, que vous avez mentionnée, qui a marqué l'histoire du théâtre, d'une méthode d'illumination de la salle et de la scène qui unissait et la salle, et les spectateurs. Il y avait des milliers, des milliers, des milliers d'ampoules. Il n'était pas ingénieur, mais il a inventé, il a 3 brevets d'invention déposés, un système d'illumination qui fait une lumière très spéciale, qui participe de la musique, des mots du théâtre, et qui a marqué vraiment l'histoire du théâtre, comme vous l'avez dit. C'est la raison pour laquelle, après la dissolution de Hellerau, cette école était Hellerau, qui a eu un impact extraordinaire sur les intellectuels de l'époque. Mais bon, la guerre est venue, donc c'était fini. Mais après, c'est Berthaud qui l'a appelé, Alexandre Salzmann, à son théâtre. Mm-hmm.
Au théâtre
de Berthaud.
C'était le théâtre des Champs-Élysées à l'époque.
Théâtre des Champs-Élysées. Et qui, c'est là qu'il a monté Péléas et Mélisande, qui a eu un impact extraordinaire en France.
Oui, alors ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites de la lumière et qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au moment où il invente ce procédé, dont les spectateurs disent que ça crée une présence, et tout à l'heure vous nous avez parlé de l'importance de la présence dans l'enseignement de Gurdjieff, c'est que donc il a déjà des idées très au fond spiritualistes de ce que la lumière doit induire dans le spectateur. Il ne connaît pas encore Gurdjieff.
Non.
Et cet homme qui a tellement travaillé cette idée de présence lumineuse sur la scène va rencontrer Gurdjieff et d'une certaine façon il va trouver une sorte d'accord avec cet enseignement.
Exact.
Et ce sera d'ailleurs pareil avec sa femme, Jeanne de Salzmann, qui a travaillé sur des mouvements de danse, et qui, bien avant d'avoir rencontré Gurdjieff, puis quand elle rencontre Gurdjieff, elle se rend compte qu'au fond, il y a une sorte de résonance intime entre ce qu'elle cherche et ce que Gurdjieff leur propose. Bassarab Nicolescu.
Oui, c'est encore une étape très importante que vous évoquiez, et pour Gurdjieff, et pour Alexandre Salzman. C'est le destin qui fait des drôles de choses, parce que c'est vraiment le destin. La guerre mondiale donc arrive, Alexandre Salzman retourne à Tiflis, où il retrouve son ancien ami Thomas de Hartmann, le grand musicien qui était directeur de l'opéra de Tiflis. Et Thomas de Hartmann le présente à Gurdjieff.
Oui, et en plus, ça donne une idée de ce que c'était que cette Europe intellectuelle et artistique. De la Géorgie jusqu'à l'Italie, les gens circulaient, les idées.
Il faut pas oublier
le
surréalisme, justement, qui a traversé l'époque, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'était vraiment une époque fabuleuse. 1930, pour moi, c'est une époque, je l'appelle dans mes textes, une époque de nouvelle renaissance et des idées vraiment transdisciplinaires dans mon langage. Bon. Et donc, là, avec Gurdjieff, s'ouvre une autre partie de la vie d'Alexandre Salzman. Il abandonne tout, mais absolument tout, à tel point, pour rester avec Gurdjieff et travailler avec lui, quand il est venu en France, il a constitué, Gurdjieff a fondé l'Institut d'Avon, à tel point que ses anciens amis, et camarades de Munich croyaient déjà qu'Alexandre est mort. Mmh. C'est-à-dire, il a fait un sacrifice. Vous avez évoqué ça, et je vous suis très reconnaissant, parce que c'est un sacrifice de sa vie pour quelque chose de très haut. Mmh. C'est-à-dire, il ne tirait aucune gloire de faire le study house, en faire la salle des mouvements à l'Institut d'Avon, près de Fontainebleau, il y avait l'Institut Gurdjieff, ou faire la mise en scène au Théâtre des Champs-Élysées. Des mouvements de Gurdjieff qui ont été présentés au public en 1923. C'est lui qui était un très très proche collaborateur, il n'était pas disciple vraiment de Gurdjieff, c'était un ami et collaborateur de Gurdjieff. Et donc, il y a effectivement chez lui un côté mystique, pas du tout religieux. Mmh. Il n'était pas religieux, il était... de l'athéisme, il était protestant, mais contre Dieu, il y a dans ses livres, nous publions des lettres adressées de mal, il s'exprime sur Dieu d'une manière très inconvenante, disons. Mais en tout cas, donc c'est pas les dieux dogmatiques qui l'intéressent, c'est la spiritualité, effectivement. Et il trouve que chez Gurdjieff, il trouve, et surtout dans les mouvements, et dans les exercices, il trouve l'incarnation de ce qu'il a toujours cherché dans sa vie.
Alors, expliquez-nous ce que sont ces mouvements et ces exercices, peut-être, parce que c'est pas très facile de se le représenter.
Vous avez raison, et surtout parce que, à mon grand regret, c'est pas connu par le public, sauf par quelques scènes des mouvements que Peter Brook a montrées dans son film...
Un autre grand artiste très influencé par Gurdjieff.
Oui, disciple des groupes, il a fait partie des Madame, des groupes de Madame de Salzman et de Jane Heap. Donc, Peter Brook, en rencontre avec les hommes remarquables, son film, montre quelques scènes. Et moi, j'étais très ami avec Michel de Salzman, qui était le fils d'Alexandre de Salzman et qui a dirigé les groupes de Gurdjieff pendant des années après la mort de sa mère. Et il avait l'habitude, une fois par an, démontrer ces mouvements, des films admirables, sur les Champs-Élysées, ouverts à tout le monde.
Oui.
On pouvait apporter des amis, convoquer des amis, inviter des amis. Ça se fait plus et c'est dommage, parce que ces mouvements, c'est quoi? Ça ressemble à rien. Quoique, on reconnaît certains mouvements derviches, par exemple, on reconnaît des influences des danses populaires russes. C'est donc des danses sacrées où chaque geste, c'est comme une lettre d'un alphabet cosmique. C'est-à-dire, c'est un alphabet pour faire quoi? Pour tenter, par les mouvements du corps, et ce n'est pas que les mouvements du corps, pendant les mouvements, ces gens qui n'étaient pas du tout des ballerins, des acteurs, c'était des amateurs, faisaient des exercices intérieurs extrêmement compliqués, des nombres, par exemple, compter, ou alors mettre son attention dans les bras, dans les pieds, etc. Et en même temps faire des mouvements extrêmement compliqués. Apparemment très compliqués, mais il les faisait avec une aisance extraordinaire. Et c'était quoi exactement ces mouvements qui, à mon humble avis, c'est un trésor de l'humanité, ces mouvements. Il y a plus de, enfin, quelques centaines de mouvements qui ont été créés par Gurdjieff et conservés par Madame de Salzmann.
Oui, qui était là vraiment celle qui a été...
Qui a conservé, je veux dire, qui a noté, qui a conservé. Et la musique aussi, la musique était composée, la musique des mouvements, qui associait ces mouvements, par Thomas de Hartmann, qui était quand même compositeur de la cour de Russie, quand même, grand compositeur, associé à Gurdjieff, ont créé cette musique des mouvements, et une musique qui n'était pas pour les mouvements, musique aussi spéciale, spirituelle. Donc ces mouvements, c'est entré en communication avec cette intelligence cosmique, pas nécessairement un dieu ou une divinité, mais en quelque sorte entrer dans l'harmonie qui est toujours là, mais on la voit pas parce que. Mais en tant que physicien, je sais très bien ça, qu'il y a une harmonie cosmique extraordinaire. On se rend compte même par la science pure qu'il y a une cohérence de différents niveaux de réalité. Et donc, dans ces mouvements, c'était entrer en résonance avec tous les niveaux de réalité existants dans l'univers.
France Culture, Les Racines du Ciel, Lélie Onvar.
Oui, l'enseignement de Gurdjieff répond d'une manière très concrète et très précise. C'est pas un enseignement ésotérique ou très compliqué, etc. C'est quelque chose qui s'adresse à l'expérience de chacun, mais avec un prix. Et le prix, c'est d'éprouver cela.
Oui, alors venons-en, parce que j'ai l'impression que ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Et d'ailleurs, c'est ce qui a le plus happé René Daumal et qui a été le plus déterminant, en fait, sur sa vie personnelle. C'est cette exigence qui me semble être au cœur de l'enseignement de Gurdjieff et qui, personnellement, est ce qui m'a le plus intéressé, au fond, en faisant des recherches sur la question. C'est cette remise en cause radicale, violente, sans concession, de nos illusions. C'est quand même cette idée qu'il faut entrer. Alors même ces mouvements, etc., sont quand même faits, et c'est vrai que c'est fait pour retrouver un mouvement cosmique, mais pour pouvoir les faire, encore faut-il d'abord avoir renoncé à son ego, ce qui est quand même le sujet de toutes les spiritualités confondues dans le monde entier. Et sauf que là, c'est dit dans un langage que René Daumal, qui lui-même était dans un malaise, dans une quête, presque dans une sorte de désespoir, il pourrait presque être une sorte de modèle de ce que sont effectivement ces jeunes aujourd'hui un peu perdus.
Tout à fait.
Et ce qu'il a trouvé d'enseignement, c'est quelque chose qui vient lui dire, pour pouvoir trouver du sens, il faut d'abord que tu détruises les illusions créées par ton ego. Et il me semble que ça, là, on est au cœur. Et il m'a semblé, et vous allez me dire si je me trompe, que c'est peut-être ça qui a fait qu'autant d'esprits brillants ont été attirés par ce qui était proposé.
Vous avez parfaitement raison, je crois que c'est le centre de toute chose, et pour la compréhension de Gurdjieff, et pour la compréhension de la spiritualité tout court aujourd'hui. Alors, revenons à Daumal, parce que c'est un cas extraordinaire. Donc là, les groupes du Grand Jeu, avec ce qu'il appelait les frères simplistes, ils pratiquaient beaucoup de choses, la drogue, la transmission des pensées, tout genre de tétrachlorure de carbone qui s'intoxiquait, etc. C'était vraiment la révolte et le désespoir.
Et là aussi, c'est un point vraiment
jusqu'à
un point 1930, commun avec la jeunesse d'aujourd'hui. Oui.
Jusqu'en 1930, qui est la fin d'ailleurs du Grand Jeu. Et c'est là que Daumal avait besoin d'autre chose. Il se disait, c'est pas ça que je cherche. Je cherche quelque chose sans les drogues, sans les choses. Roger Gilbert Lecomte, qui est un grand poète, il est resté aux drogues jusqu'à la fin, et il est mort dans des conditions très tragiques. Donc Dommalle a cette révélation étonnante par la rencontre avec Salzmann, grâce encore à un personnage intéressant, Joseph Sima, un grand peintre d'origine tchèque, qui les a mis en contact. Et là, il a découvert une voie. Il n'a pas besoin de drogue, il n'a pas besoin des choses artificielles, mais il a besoin de travailler lui-même. L'invitation de Gurdjieff est très intéressante pour son travail, parce qu'il dit « ne croyez rien ». C'était une des choses fondamentales, c'est une des choses fondamentales de l'enseignement de Gurdjieff. « Ne croyez rien, ne me croyez surtout pas moi. Croyez seulement ce que vous pouvez vous prouver vous-même. » Bon, ça satisfait un esprit qui était, après tout, très rationnel aussi. C'était, il avait une penchant très philosophique et même penché. Il a été tenté par aussi la connaissance scientifique. Dommalle, ça lui a satisfait son goût d'éprouver par lui-même. Et c'est ce qu'il a trouvé avec Alexandre et avec Jean de Salzmann, c'est-à-dire une série de pratiques qui ne sont pas fondées sur des choses artificielles. Je vous donne un seul exemple, parce que ce n'est pas des grands secrets. On peut les évoquer à l'antenne sans problème. Et il y a beaucoup d'exercices que j'ai trouvés d'ailleurs à la bibliothèque Doucet, dans leur forme pure, intégrale, tels qu'ils étaient donnés par Gurdjieff, des exercices qui s'inspirent beaucoup, par exemple, par la prière du cœur.
Telle qu'elle est pratiquée donc dans l'orthodoxie.
Dans l'orthodoxie, c'est-à-dire une prière fondée sur la respiration, sur la circulation énergétique dans le corps, mais pour, dans ces livres que vous avez cités sur Dommalle, nous donnons là des exemples très précis, des lettres, d'ailleurs, de Madame de Salzmann, où il donne des indications comment faire cet exercice. Pourquoi ? Pour se dédoubler, mais les mots dédoublement
ont
une résonance, une résonance du nouvel âge qui ne convient pas. C'est-à-dire de séparer l'être réel en nous de cet ego que vous avez évoqué, qui a mille visages. Nous passons d'une personnalité à l'autre à l'intervalle de quelques minutes sans s'en rendre compte. Mmh. Donc séparer les deux par la respiration, par la circulation énergétique dans le corps, c'est des choses extraordinaires. Il a pratiqué longtemps ce genre d'exercice avec une rigueur et une discipline. Ces cahiers sont étonnants parce que ces cahiers, ces notes de l'enseignement de Gurdjieff de Dommalle, c'est un exemple de sa dédication au travail réel, à l'effort, parce que c'est un effort. Et là, on voit aussi un exemple, je crois, on a évoqué pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont un peu, il faut reconnaître, en proie à tout genre de mouvements, sectaires ou pas, des développements personnels, où on fait mélange de ci, de ça, de cette spiritualité, Extrême-Orient, Moyen-Orient, chrétien, etc. On les met ensemble, et toute l'idée, c'est le confort. Or, tout le travail de Gurdjieff, c'était contre l'idée de confort. Il mettait l'accent, comme les maîtres zen, sur les chocs. C'est-à-dire, en créant des chocs, en nous mettant devant notre propre miroir, c'est voir dans les miroirs de sa conscience, c'est un choc horrible quand on se voit, quand on n'est pas très centré. Et je crois que ces chocs, c'est quelqu'un qui peut les faire d'autre que soi-même. C'est pour ça que Gurdjieff dit ce mot magnifique, personne ne peut travailler seul. Il dit aussi maître. Qu'est-ce que c'est un maître? C'est les mots de Gurdjieff, peut-être pas exact, mais l'essence est exacte. Il dit maître. Un maître, c'est quelqu'un des plus anciens, qui a traversé toutes ces épreuves, toutes ces expériences, donc il peut guider les autres. Mais c'est pas quelqu'un qui connaît tout. Le vrai maître, disait-il, c'est le maître intérieur. Je trouve ça magnifique.
Oui, tout à fait salutaire, en effet.
Oui.
Et d'ailleurs, René Dommalle lui-même, il a travaillé avec Alexandre de Salzmann, il a travaillé avec Jeanne de Salzmann, et puis lui-même après, assez tôt, puisqu'il est mort à 36 ans, donc avant de mourir, il a aussi en fonction de ce qu'il avait acquis comme connaissance, il a aussi eu à initier d'autres, enfin initier
oui,
ou
guider,
à travailler guider. Avec d'autres.
Il a guidé, par exemple, Ludwig Trich. Parce que comme il était plus ancien, Jean de Sales, on lui a demandé de guider ce grand écrivain de l'apprentissage de la ville, etc. C'est une grande amitié qui est née ainsi entre Domal et Dietrich. Dietrich, c'est une autre figure fabuleuse de cet enseignement, et aussi de lettres françaises, quand même. Un grand romancier. Voilà, il a guidé aussi d'autres, avec ses faibles forces, parce que c'était la fin de sa vie.
Oui, lui aussi avait été donc frappé de tuberculose.
Oui.
C'est vraiment, ils ont payé un très lourd tribut.
Et à l'époque, on ne pouvait pas guérir, c'était des douleurs atroces. Et il y a des mots extraordinaires, peu de temps, quelques jours avant sa mort, il passait par des douleurs vraiment terribles. Et c'est Vera qui raconte, son visage s'illuminait, il a dit, je suis quand même patient de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je trouve ça vraiment des mots de sagesse, de paix intérieure.
Qui a 36 ans et tout ça est assez rare pour être
aussi. Et je vais ajouter une chose, si vous permettez. Mais, ce qui est important, c'est que sa veine créative ne s'est pas arrêtée. Parce que c'était une des critiques.
Mais elle s'est transformée.
Oui et non. Là aussi, c'est à discuter. Parce que je crois qu'il a trouvé l'accomplissement dans ce qu'il savait toujours, depuis toujours, avant de rencontrer Gurdjieff.
Oui.
Donc c'est un accomplissement. C'est une sorte de métanoïa, bien sûr, parce que ça donne sens. Mais ce qui est important, on reprochait beaucoup de mal de s'avoir égaré dans cette voie, cet enseignement de Gurdjieff, etc., d'avoir arrêté son... Il n'a pas arrêté son écriture. Son œuvre est considérable. Et alors, les diamants, je dirais, de tout ce travail, c'est les romans initiatiques qui s'appellent les mots analogues, comme par hasard, non finis.
Oui.
Ça même s'arrête en écrivant ce roman peu de jours avant sa mort, qui est vraiment un roman initiatique où il décrit l'enseignement de Gurdjieff. Il faut lire les mots analogues, qui est maintenant dans beaucoup d'éditions, d'ailleurs, qui est dédié à Alexandre de Sales. Le personnage central du mot analogue, c'est un certain Persogol, une version de Logos, qui est Alexandre de Sales.
Thank you.
Alors, comme notre émission touche tout doucement à sa fin, je ne voudrais pas que nous ne lisions pas au moins un extrait d'un très beau texte que vous nous avez apporté, qui est justement un texte d'Ouspensky, Fragment d'un enseignement inconnu, texte tout à fait important pour faire connaître la pensée de Gurdjieff. C'est vraiment ce texte qui a très souvent inspiré toutes ces personnes que nous avons évoquées, dans lequel justement il donne les lignes de force de cet enseignement. Alors, je ne vais pas lire tout l'extrait parce qu'il est long. Donc, il raconte un conte dans lequel un magicien essaye d'hypnotiser des moutons pour que les moutons se laissent faire et se laissent dévorer. Et je vais surtout lire la conclusion qui dit bien, en fait, qui évoque en fait le centre de cet enseignement que nous avons évoqué tout à l'heure. Si les hommes pouvaient vraiment se rendre compte de leur situation, s'ils pouvaient en réaliser toute l'horreur, ils seraient incapables de demeurer tels qu'ils sont, même pour une seconde. Ils commenceraient aussitôt à chercher une issue, et ils la trouveraient très rapidement, parce qu'il y a une issue. Mais les hommes manquent à la voir, simplement parce qu'ils sont hypnotisés. Kundalini, c'est-à-dire la puissance de l'imaginaire, est cette force qui les maintient dans un état d'hypnose. S'éveiller pour l'homme signifie être déshypnotisé. C'est là la difficulté principale, mais c'est là également que nous trouvons la garantie de la possibilité de l'éveil, parce qu'il n'y a pas de légitimation organique d'un tel sommeil. L'homme peut s'éveiller. Il est indispensable qu'il y ait quelqu'un pour réveiller le dormeur. Il est indispensable qu'il y ait quelqu'un pour surveiller le réveilleur. Il faut avoir des réveils matins, et il faut aussi en inventer constamment de nouveaux. Mais pour mener à bien cette entreprise et obtenir des résultats, un certain nombre de personnes doivent travailler ensemble. Un homme seul ne peut rien faire. Alors, vous m'avez apporté ce texte qui fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler seul, il faut s'entraider. En même temps, vous avez évoqué l'idée de maître intérieur chez Gurdjieff. Et vous m'avez aussi apporté un autre très beau texte de Jacques Lacarrière, un texte qui a été publié dans le magazine littéraire, que je ne lirai pas parce que je n'aurai pas le temps de le lire.
Peu d'un fragment.
Voilà, peut-être juste la fin, absolument. Oui, peut-être que je vais justement lire un extrait, parce que ça contredit presque l'autre texte, dans le sens où Jacques Lacarrière dit dans ce texte qu'il n'a jamais travaillé dans les groupes de Gurdjieff, qu'il n'a jamais été un disciple dans le sens classique du terme de Gurdjieff, mais que néanmoins, la pensée de Gurdjieff a profondément fécondé la sienne. Et il dit par exemple... Son enseignement, sa pensée n'ont jamais cessé depuis lors, c'est-à-dire depuis la découverte, de jouer sur ma vie et certains de mes livres un rôle déterminant. C'est dans ma façon d'être en ce monde, l'engagement de recherche qui ne furent jamais séparés de ma vie, toute une trajectoire intérieure qui me menèrent ensuite, pendant des années, vers certains centres spirituels du Proche-Orient, que j'ai croisé et retrouvé l'enseignement de Gurdjieff. Pour moi, sa pensée fut toujours extrêmement revigorante, voire optimiste. Elle m'apparut alors, et elle m'apparaît toujours, la seule à décaper radicalement les illusions que nous entretenons sur notre être, à nous mettre face à notre vide, mais en nous proposant des solutions pour le combler. Oui. Et là, Jacques Lacarrière, c'est un travail qu'il fait seul, au fond, avec son maître intérieur, en s'inspirant de cet enseignement qu'il a rencontré un jour sur son cheminement.
Ça montre autre chose, ce que vous avez lu. Déjà, Lacarrière, que j'ai bien connu, c'était un de mes grands amis. Nous avons discuté souvent sur Gurdjieff et je trouve qu'il avait une compréhension de Gurdjieff plus profonde même que des disciples de Gurdjieff. C'est assez étonnant parce qu'il n'était pas disciple ni de groupe ni de rien. Mais il a trouvé par son travail et par son itinéraire spirituel. Ça montre aussi que cet enseignement ne s'adresse pas, ça contredit pas le fait qu'on peut pas travailler seul. Après tout, Jacques Lacarrière a travaillé avec tous ces gens qu'il a rencontrés au Momentos, avec sa femme aussi.
Absolument, c'est, oui.
C'était très proche.
Les femmes sont de grandes initiatrices,
bien sûr,
c'est connu.
Et donc, ça montre que cet enseignement s'adresse à des gens qui ne sont pas nécessairement dans un groupe Gurdjieff ou entraînés dans une mouvance ou une autre. Je donne un autre exemple célèbre, excusez-moi, mais documenté. Mmh. André Breton. C'est très étonnant. André Breton et Gurdjieff. Ça se passe en 1952. Gurdjieff était déjà mort, mais il a publié son opus magnum qui était Récit de Belzébuth à son petit-fils. Mmh. Tout de suite, André Breton sent qu'il s'agit, il écrit textuellement, une des œuvres les plus importantes du XXe siècle. Il les cite dans plusieurs textes, dont une exposition du surréalisme, il a fait dans les troisièmes manifestes aussi, il cite Récit de Belzébuth à son petit-fils. Et donc, Breton a été capté par la même... Breton avait une ouverture spirituelle extraordinaire. Dans les mouvements du surréalisme, il y a cette traversée aussi du flux, pas ésotérique, mais spirituel, vraiment. Et ça, c'est un exemple magnifique. Il y a bien d'autres. Charles Duhigg, par exemple, qui est un surréaliste très connu.
Merci beaucoup, Bassarab Nicolescu, d'être venu au moins évoquer quelques aspects de cette pensée, de cette trajectoire. Je rappelle le titre de l'ouvrage collectif que vous avez piloté. Donc René Daumal et l'enseignement de Gurdjieff, c'est publié aux éditions Le Bois d'Orion. La semaine prochaine, en fait, nous recevrons un poète, Zeno Bianou, qui est un très grand admirateur de René Daumal, donc ce sera presque une continuité avec cette émission. Et donc nous serons cette fois-ci dans une évocation de ce que c'est que vivre poétiquement le monde. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Lélie Anvar. Et tout de suite, nous retrouvons Les Chemins de Sagesse de Frédéric Lenoir.
Je voudrais continuer aujourd'hui sur ce que j'ai déjà initié la semaine dernière, à savoir les faux amis du bonheur, ou les faux bonheurs. J'ai parlé la semaine dernière déjà de l'injonction au bonheur, du bonheur à tout prix. Et là, je voudrais parler de ce qui constitue finalement le contenu principal du bonheur recherché par une majorité de nos contemporains en Occident, à savoir le bonheur dans l'avoir. Et je pense qu'effectivement, c'est impossible. Aujourd'hui, la publicité, tout l'environnement socio-économique, depuis une trentaine d'années, nous montre, nous dit, nous affirme que plus on aura d'objets, plus on sera dans le confort matériel, plus on aura de reconnaissance sociale, plus on sera heureux. Et en fait, les philosophes depuis et les sages depuis la lointaine antiquité nous disent exactement l'inverse, et je suis convaincu qu'ils ont raison. C'est que si on met la recherche d'une satisfaction globale et durable dans l'avoir, on sera toujours insatisfait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très étonnant dans l'observation de la nature humaine, ce qui nous distingue des animaux notamment. Les animaux sont satisfaits dès qu'ils assouvissent leur instinct. Et nous, on n'est pas tout à fait dans l'instinct, on est dans le désir. Et le désir est infini. C'est vraiment la caractéristique du désir dans l'être humain, c'est qu'il est infini, il est sans limite. Et donc, c'est quelque chose de merveilleux dans l'ordre spirituel, parce qu'on désire toujours plus de connaissances. Notre esprit est jamais assouvi. On se pose toujours des questions, on chemine toujours, on continue de s'interroger, on continue de rechercher. Et y a toujours une joie et un bonheur extraordinaire à comprendre quelque chose de nouveau, à apprendre, à grandir en conscience. Et donc cet infini du désir dans l'ordre spirituel crée plutôt de la satisfaction et du bonheur. Parce qu'on est toujours assoiffé et que cette soif n'est jamais comblée. Par contre, le fait de mettre le désir et cet infini du désir dans les choses matérielles crée en permanence de l'insatisfaction. Parce que dès qu'on a quelque chose, on veut autre chose. Ce qui est bon dans le domaine, encore une fois, de l'esprit n'est pas bon dans le domaine de l'avoir parce que nous ne sommes jamais satisfaits et du coup nous sommes frustrés. Nous vivons une frustration qui, on le voit très bien avec les enfants, ils ont un jouet, ils en veulent un deuxième et puis un troisième et puis lorsque ils ont tous les jouets de la terre, le seul jouet qui va les intéresser, c'est le jouet de leur voisin. C'est-à-dire celui qu'ils n'ont pas, celui que quelqu'un d'autre possède. C'est ce qui s'appelle le désir mimétique. Et ça, c'est une autre face, je dirais, de ce caractère d'insatisfaction permanente du désir, c'est que non seulement notre propre désir est toujours insatisfait, puisque dans l'ordre matériel, on voudra toujours quelque chose d'autre, mais en plus, on voudra pas simplement, ne désirera pas simplement des choses dont nous avons besoin ou qui nous font plaisir, on désirera aussi autre chose simplement parce que quelqu'un d'autre le possède. Et donc c'est le double caractère du désir humain, c'est qu'il se porte à la fois sur l'objet de ses besoins, mais aussi sur l'objet que possèdent les autres. Et le seul fait que quelqu'un d'autre possède quelque chose que je n'ai pas me donne envie de l'avoir. Et on l'observe encore une fois très très facilement chez les enfants. Vous pouvez avoir un enfant qui a plein de jouets. S'il y en a un autre qui a un seul jouet mais qui ne l'a pas, c'est celui-là qui l'intéressera le plus. Parce que c'est celui que quelqu'un d'autre possède. Et c'est ce qui fait un peu les guerres, hein, à travers l'histoire, on voit très bien à quel point les conflits peuvent être mus par ce désir mimétique. Donc, pour sortir de ça, si on veut vraiment essayer de construire un bonheur plus durable, plus profond, il faut effectivement sortir de la logique de l'avoir et sortir de la logique du mimétisme. Sénèque disait, si tu veux être malheureux, compare-toi, regarde ce que les autres ont. Et là, tu verras toujours quelque chose que tu voudras posséder. Il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui est plus riche que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui a une plus jolie femme que la tienne. Il y aura toujours quelqu'un qui a telle possibilité que tu n'as pas. Donc finalement, la comparaison est source de malheur. Et c'est pourquoi la sagesse, c'est d'arrêter de se comparer et d'apprendre à se satisfaire effectivement de ce qu'on a, ou en tout cas, on peut continuer de désirer les choses sans pour autant mettre nos désirs uniquement dans les choses matérielles. Et c'est cet équilibre du désir qui se porte à la fois sur des choses matérielles, mais aussi sur des choses spirituelles, aussi dans le domaine de l'amitié, aussi dans le fait que notre désir soit équilibré entre le cœur, l'esprit et le domaine matériel, permet effectivement de ne pas vivre uniquement dans cette recherche d'un bonheur illusoire qui serait entièrement fondé sur l'avoir. Ce qui fait que aujourd'hui beaucoup de gens sont malheureux, ça vient effectivement de la télévision, des médias, on voit tout ce que les autres ont. Et là je suis frappé de voir, j'étais en Afrique là il y a très peu de temps, et je me rends compte que les gens qui vivent dans des petits villages où ils ont ni télévision, ni téléphone portable, etc., ils ont l'air beaucoup plus heureux que les gens qui vivent dans les grandes métropoles et qui regardent, ou dans des villages où il y a déjà la télévision et Internet, où ils regardent le mode de vie européen ou américain et qui rêvent de ça. Et du coup, ils sont frustrés de ne pas avoir ça, et on voit déjà des grandes différences entre ceux qui sont dans effectivement l'accès aux médias mondiaux, ce qui permet la comparaison et ce qui engendre de la frustration, et il est très difficile d'y résister. Et puis ceux qui se satisfont de la vie qu'ils ont toujours eue, qu'ont eu leurs parents, qui est une vie traditionnelle dans laquelle l'être humain peut trouver son bonheur avec peu de choses. C'est la fameuse sobriété heureuse d'Épicure, remis au goût du jour par Pierre Rabhi, qui fait que la sagesse nous dit que le bonheur, c'est d'arriver à se satisfaire de peu de choses et d'être plutôt dans la recherche de la qualité que dans la quantité, d'être plutôt dans le mieux-être que dans le toujours plus.
Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours.